Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, merci de nous accueillir chez vous pour un entretien que nous vous proposons en ce jour de Noël. Nous espérons d'ailleurs que vous avez passé une belle journée au milieu de celles et ceux que vous aimez. Nous l'avons rencontrée à Saulieu le 2 novembre dernier, où elle était l'invitée d'honneur du Salon du Livre de cette ville. Elle est écrivain, plus de 40 livres à son actif, des romans, mais aussi un ouvrage intitulé « Le Livre du Point de Croix ». Elle a été éditrice, elle a dû affronter en son temps les foudres de la censure, elle a même été condamnée en justice, menacée de prison, et elle a toujours su faire face. Pas toujours soutenue dans ses projets éditoriaux, elle a côtoyé les plus grands, du monde des arts et des lettres. Elle a été membre du comité de soutien de François Mitterrand, qu'elle a même accompagné quand il était président au Vietnam. Elle a même été un temps communiste, l'est-elle encore, on le lui demandera. Et sa deuxième patrie, ça c'est sûr et certain, elle l'a écrit, c'est Cuba. Elle restera à jamais l'auteur d'un roman fameux, un parmi beaucoup d'autres, La bicyclette bleue, qui lui a encore valu en son temps des démêlés avec la justice. Alors, l'aurez-vous reconnu? Eh bien, oui, vous avez trouvé son nom, c'est Régine Deforges. Bonsoir, Régine Deforges.
Bonsoir.
Merci à vous d'être devant notre micro. On vous accueille parce qu'au mois d'août, qui est le mois de votre naissance, au mois d'août de cette année, vous avez fait paraître chez Robert Laffont donc vos mémoires intitulées « L'enfant du 15 août ». Vous êtes cet enfant du 15 août. Une petite fille qui est née, est-ce que j'ose dire l'année de votre naissance, Régine Deforges?
Je le dis en introduction. Alors,
je le dis.
Ben oui, dites-le.
Vous êtes née donc le 15 août 1935, vous êtes née dans le Poitou, à Montmorillon. On peut dire une enfance heureuse, mais une enfance un peu tumultueuse aussi.
Tumultueuse, non, pourquoi? Bon, c'était la guerre, vous me direz.
Oui.
Non, mais une enfance heureuse.
Alors, vous racontez votre passage dans les institutions privées, il y a Saint-Martial, Sainte-Philomène. On vous traitait durement à l'école, hein ?
C'était sans doute l'époque, quand je disputais avec des camarades, la directrice de l'école Sainte-Philomène nous prenait par la tête et nous les cognait l'une contre l'autre. Des trucs comme ça, on nous enfermait dans des placards.
Et puis, finalement, très tôt, petite fille... peut-être pas si innocente, pas si naïve que ça, en tout cas. Vous rencontrez, vous tombez sur des pervers, alors dans un jardin public. Vous voulez nous en parler?
Ah oui,
puisque vous l'écrivez.
Je l'écris. Oui, oui, bah, j'étais une enfant très curieuse des choses du sexe. Et dans le jardin public où nous allions jouer, il y avait donc des toilettes publiques. Et il y avait des messieurs qui s'exhibaient, qui s'est montré. Moi, j'étais très intéressée par ça. Donc je l'ai regardé, j'ai même touché, mais ça n'a pas été plus loin.
Alors vous êtes intrigué, effectivement, par les hommes. Il y a une lecture importante. Alors nous, dans le département de Lyon, on aime cet écrivain parce qu'elle est née à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans notre département de Lyon. C'est Colette et le blé en herbe a eu... en tout cas, on peut dire que c'est une lecture marquante pour vous, parce qu'adolescente, vous dévorez les livres, vous êtes vraiment, votre culture est une culture livresque.
Tout à fait, il faut dire que Colette est un auteur tout à fait sensuel, d'une grande, grande sensualité, et dans le blé en herbe, c'est l'histoire d'amour d'une femme d'un certain âge, je dois avoir 35 ou 40 ans, ce qui à l'époque semblait vieux, avec un jeune garçon d'une quinzaine d'années. Et moi, ça m'avait beaucoup troublé. Mais c'est pas le premier livre qui m'a le plus troublé. Le premier livre qui m'a troublé, c'est Candide de Voltaire.
L'épisode de la fessée.
L'épisode de la fessée. Et puis surtout, on parlait tout le temps du cul de Cunégonde. Et nous, on ne disait pas de gros mots à l'époque. J'ai dit dur merde la première fois, j'avais 15 ans. Donc, cul, ça me semblait un très gros mot.
Il y a l'épisode, alors adolescente, où vous êtes amoureuse de Manon.
Tout à fait.
Alors là, c'est l'époque, vous avez... Quel âge avez-vous?
15 ans.
15 ans, Manon c'est une camarade, vous l'embrassez sur la bouche, vous vous aimez hein, l'une comme l'autre, hein, c'est totalement réciproque, c'est un amour vraiment profond, intense. Et malheureusement, cette affaire va s'ébruiter parce que quelqu'un met la main sur votre journal intime Déjà, vous écriviez ce que vous éprouviez, et cette affaire remonte même jusqu'à la gendarmerie. À 15 ans, c'est assez... C'est un scandale quand on aime à 15 ans.
Non, mais c'est un scandale.
Et c'est un scandale pour votre famille aussi.
C'est un scandale pour la famille. Les gendarmes viennent à la maison, convoquent mes parents, leur disent qu'il faut absolument récupérer ce journal pour que le scandale cesse, etc. Et ça ne cesse pas. Dans la rue, on m'insulte, les bonnes femmes me giflent, les gamins me jettent des pierres, on me court après. Enfin, on m'appelle la tigresse parce que je me bagarrais beaucoup. Et donc, c'est très, très pénible. Les bonnes sœurs nous renvoient de l'institution où nous étions, ma sœur et moi. Et aucun établissement de la région ne veut nous recevoir. Et mes parents n'ont pas les moyens de nous mettre en pension à Poitiers.
Alors, vous écrivez, par rapport à cet épisode de votre adolescence, épisode douloureux, parce que dans ce livre, ce que j'ai remarqué dans L'Enfant du 15 août, c'est qu'une Régine de Forges tremblotante, qui a peur parfois, qui pleure beaucoup... mais qui, à la fin, dit finalement « la vie m'a beaucoup donné ». C'est aussi la leçon de ce livre, quand bien même vous ne cherchez pas vraiment à tirer des leçons.
Non.
Mais vous vous mettez à nu, on peut le dire quand même.
Non, mais j'ai été très gâtée, c'est vrai, j'ai été très très gâtée. J'ai eu cet épisode absolument douloureux, assez épouvantable, dont je ne suis pas remise d'ailleurs, qui fait que j'ai toujours, vis-à-vis des autres, un sentiment de peur, de crainte. Je sais que l'autre est méchant, il est jaloux, il est envieux, enfin, il est tout un tas de choses. Donc, mais si vous voulez, malgré tout, cette vie reste quelque chose de tout à fait surprenant. On ne sait pas très bien à quoi ça sert, mais nous n'avons que celle-là, il faut la vivre au mieux.
Alors justement, cette vie avec ce qu'elle a de plus beau et comme vous dites, de plus affreux de la part de l'identité humaine, les livres ont toujours été des réconforts. Très tôt, vous aimez les livres et vous aimez le livre en tant qu'objet. Ça, c'est évident, vous êtes une bibliophile. J'ai remarqué d'ailleurs que, à l'idée de votre disparition, vous vous interrogez et vous vous demandez ce que vont devenir vos livres, consciente que vos enfants ne pourront pas accueillir ces livres qui, chacun d'entre eux, a marqué votre vie, votre parcours.
Ah ben oui, ils ont chacun leur importance. Je sais très bien dans quelles circonstances j'ai pu les acquérir. Et puis, de toute façon, mes enfants, s'ils sont comme moi, si j'hérite d'une bibliothèque, je vends tous les livres. Je prends envie d'une bibliothèque que je n'ai pas choisie. C'est important. Je regarderai avant s'il n'y a pas quelques éditions qui me plaisent particulièrement, mais je ne la garderai pas.
Alors, vous vous souvenez de ces premiers livres érotiques qui ont défilé entre vos mains innocentes, Régine de Forges ?
Oui, c'était Boris Vian avec « J'irai cracher sur vos tombes et on tuera tous les affreux ».
Alors, les romans policiers vous ont captivé. Et puis, vous avez, alors je l'ai découvert, une affection profonde pour la comtesse de Ségur et ses œuvres.
Ah, toujours. Je l'ai relu encore dernièrement. J'ai relu une dizaine de ses romans. C'est un grand écrivain, Balzac, Stendhal, on était convaincus. Moi, j'aurais adoré être la comtesse de Ségur de mon temps. J'ai encore le temps de m'y mettre, mais enfin bon. C'est vraiment quelque chose d'assez remarquable. C'est quelqu'un qui s'adresse aux enfants pas d'une manière niaiseuse. Elle leur parle comme à des personnes. Et ça, c'est intéressant.
Et vous aussi, vous avez commis quelques livres pour la jeunesse.
Oui, mais pour les plus petits. Avec des dessins. J'ai une chose dont je suis assez fière, enfin assez content, c'est d'avoir illustré l'Apocalypse de Saint Jean, pour faire comprendre à ma fille Camille, à qui je lisais l'Apocalypse et qui ne comprenait rien, ce que c'était. Alors une fois avec mes dessins, je dessine quand même un enfant de 7-8 ans. Hein. Donc les enfants aiment bien mes dessins parce qu'ils ne sont pas écrasés par le talent du dessinateur.
Régine de Forges, on va marquer une première pause musicale. Je rappelle que l'entretien que nous proposons aux auditrices et auditeurs de Radion ce soir a été enregistré le 2 novembre dernier à l'hôtellerie de la Tour d'Aussois, hôtel de charme à Saulieu. On écoute Rose qui nous interprète « Épuis joint ».
Entre deux saisons, un sourire à la con. Les hommes, nos galons. tu rentres tard. Et puis je, et puis toi, on est loin, on en est là. La fatigue aux yeux, qu'est-ce qu'on peut bien faire de mieux? Entre deux années, j'ai pas d'alcool mauvais.
Elle est l'enfant du 15 août. Elle signe ses mémoires aux éditions Robert Laffont. Régine Deforge est avec nous ce soir. Elle est devant les micros de Wagon Livre. Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale. Régine Deforge, au cours de votre adolescence, vous allez suivre vos parents. Il y a un épisode africain. Vous partez en Afrique, en Guinée, à Conakry, où là, à 17 ans, vous exercez vos premiers emplois. Vous êtes employé, alors la BNCI, qu'est-ce que c'était la BNCI?
Banque nationale, je sais pas, industrielle.
Crédit industriel, Et vous avez été caissière aussi.
J'étais caissière au Crédit Lyonnais.
Au Crédit Lyonnais. Alors, on passe l'épisode africain. Vous êtes, en revanche, il y a un élément qui vous surprend déjà, c'est que vous avez 17 ans, vous caressez la tête d'un enfant noir et là, vous vous faites quasiment gronder.
Ah oui, oui, ça veut. Moi, le racisme, je l'ai appris de la part des Africains. Hein. Je ne savais pas ce que c'était. Au Morillon, des Noirs, il n'y en avait pas. J'ai été quand même très, très surprise.
L'excision vous choque?
Ah ben oui, parce que comme je ne foutais rien à la BNCI, on m'a mis dans un endroit où on ne mettait ni les Blancs ni les Noirs, mais les Métis. Donc je me suis retrouvée avec une ravissante métisse qui s'appelait Maria, avec laquelle j'ai sympathisé. Elle me laissait lire derrière une pile de dossiers, etc. Et un jour, elle m'a invitée à une fête dans sa famille. Et cette fête, c'était une fête de l'excision. Et je ne savais pas ce que c'était, évidemment. Mais elle m'a dit qu'il ne fallait pas en parler.
Alors, on n'en parle pas non plus ce soir. Vous retournez en France. Alors là, c'est la découverte de Paris. Alors, Paris, c'est aussi la ville qui vous a révélé. C'est la ville que vous adorez. Vous y habitez.
J'habite Paris, oui. Et j'ai même fait l'année dernière un livre sur Paris, qui s'appelle Paris de mes amours, qui est une promenade à travers Paris.
Premier mariage avec Pierre Spengler. Alors, un mariage qui est décidé au jeu. Ouais. À coup de 421. Mmh. Est-ce bien raisonnable, Régine Deforge?
C'était pas raisonnable du tout, c'était surtout imbécile. Imbécile, je me suis conduite comme une sotte, mais enfin d'être de jeu d'être d'honneur.
Vous avez aimé beaucoup de femmes dans votre vie. Alors, il y a Manon, nous l'avons dit. Il y a Fanette, l'épisode avec Fanette. Et puis, vous avez été aussi amoureuse d'une chanteuse américaine, Sandy Stewart.
Oui,
alors, Régine Deforge, finalement, est-ce que vous étiez bisexuelle?
Je crois que je suis bisexuelle, tout à fait. J'aime autant les hommes que les femmes.
J'ai été amusée parce que vous avez croisé l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre vous a confessé qu'il aurait aimé être une femme pour lui-même faire l'amour à des femmes. Et vous lui avez écrit des petites histoires de lesbiennes.
Oui, tout à fait.
Alors ça, j'ai trouvé ça incroyable.
Ben oui, c'était un personnage assez incroyable.
Ce n'était pas un saint.
Ah, c'était pas un saint, non? Non. Enfin, un saint, c'est quand même quelqu'un qui a des désirs, qui a des pulsions. Les saints ne sont pas forcément des êtres exemplaires, ça se saurait.
Et sur l'abbé Pierre, vous vous souvenez de ce repas très modeste, de très mauvaise qualité que vous avez fait avec lui?
Je revois toujours ce gâteau dégoulinant de crème rose. Il l'avalait, lui, moi je ne pouvais pas, j'avais la... Oui, oui, qui est dans une sorte d'immeuble de ce côté de la porte de Charenton. Mais bon, c'était gentil, c'était sympathique.
Vous êtes devenu ensuite libraire. Avant d'être écrivain, vous êtes devenu libraire. Alors, d'abord au drugstore des Champs-Élysées, et là, vous en profitez, là encore, écoutant vos goûts et vos pulsions, peut-être, vous développez un peu les rayons, le rayonnage de livres érotiques. Vous découvrez des textes de Georges Bataille. C'est vrai que Bataille, c'est...
Oui.
Aujourd'hui, on n'oserait plus conseiller aux adolescents de lire Bataille.
Non.
La société est devenue quand même un peu...
De même qu'aujourd'hui, il est impensable de republier Les Trois Filles de leur mère. Enfin, qu'un écrivain comme moi ou X publie Les Trois Filles de leur mère, alors que Les Trois Filles de leur mère existent en livre de poche et en Pléiade. Mais c'est l'éloge de la pédophilie, donc c'est impensable. Je lisais aussi un petit livre de Maurice N. qui s'appelle Luce ou Les Mémoires d'un veuf. Ce mec, qui se tape ses enfants de 6 ans à 12 ans.
Oui.
Oui.
Alors, à Limoges, vous arrivez soutenu aussi avec un projet d'une belle grande librairie à Limoges, c'est la Gartempe, du nom de la rivière qui passait près de Montmorillon.
Qui passe à Montmorillon.
À Montmorillon. Oui. Et puis alors, il y a eu la librairie du Palimugre,
oui,
qui n'a pas fait long feu non plus, parce que là aussi, c'est très intéressant. Vous nous ramenez à la réalité du monde de l'édition et du monde surtout de la librairie. La librairie du Palimugre a très rapidement été concurrencée par la FNAC. Et alors, que vont devenir, Régine Deforge, les libraires indépendants dans les villes de province ou même à Paris? Quel avenir pour eux?
Dur. Très, 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 très dur. Vous savez, la plupart des libraires vivent avec le SMIG. Hein. Ça, on le dit pas assez. C'est très dur. Il faut avoir ce métier chevillé au corps pour continuer à l'exercer. Mais je pense que ça durera. De même qu'il y a toujours des bouquinistes que j'admire et que j'aime énormément.
Quelques minutes en chanson, Régine Deforge, si vous le voulez bien. Je pense que cela va nous être particulièrement agréable au milieu de cet entretien que nous proposons ce soir en compagnie de celle que l'on a qualifiée de papesse de l'érotisme. Ça vous plaît, ça?
Non, c'est ridicule.
Papesse?
Bon, papesse de l'érotisme, oui, c'est ridicule. On m'a dit que j'étais la reine du point de croix, je suis n'importe quoi.
Alors, on va dire que c'est Régine Deforge qui nous accompagne ce soir à bord de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. On écoute Zaz et elle nous interprète La Fée.
Moi aussi, j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi. Une autre était là, je l'ai trouvée repliée sous ses ailes. Et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères. Elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures. À la fenêtre, comptant les heures. est chez moi. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas.
Bibliophile, personnalité très célèbre du monde des lettres, elle a été membre du jury du prix Femina et de plusieurs autres prix littéraires. Elle a même été présidente de la Société des gens de lettres. Elle est l'auteur de plus de 40 livres, et notamment de la fameuse Bicyclette bleue, de La rue de la soie, de Noir tango, et je ne vais pas tous les mentionner. C'est Régine Deforge qui est ce soir l'invitée de Wagon Livre. Nous l'avons rencontrée le 2 novembre dernier, où elle était l'invitée d'honneur du Salon du Livre de Saulieu. Et on remercie la direction de l'hostellerie de la Tour d'Aussoy qui nous accueille dans ce beau salon. Mais je vois, Régine Deforge, vous êtes surtout très intriguée, par le microphone qui se trouve devant nous, il vous plaît. Hein.
Oui, mais c'est pas ça. Mais ce qui m'intéresse,
si vous le touchez, ça s'entend. Attention.
Ça s'entend.
Ah oui.
C'est la bonnette. Ça s'appelle comment? Une bonnette.
C'est une petite bonnette pour filtrer les pop.
Mais quand je fais des émissions de radio, il y a des bonnettes, comme vous dites, des rouges, des verts, des bleus. Il faut que je les touche.
C'est votre côté sensuel.
Oui,
voilà, faut que vous touchiez.
Je suis une tactile.
Vous savez que vous n'avez pas le droit de toucher l'animateur.
Ah bon? Ah bon, bah tant pis.
Redevenons un peu sérieux, parce qu'on rentre avec vous dans votre, j'allais dire, autre phase, grande phase passionnante de votre vie, c'est le monde de l'édition. Vous avez créé 4 maisons d'édition, successivement.
Oui.
Vous ne vous en souvenez plus?
Ah si, j'en souviens assez.
Donc la première, c'était L'Or du Temps. Mmh. Prise d'une formule de...
D'André Breton.
De Breton. Vous avez beaucoup aimé les surréalistes?
Non, pas beaucoup. Enfin, j'ai pas aimé Breton du tout. Mais il avait écrit, il avait dit cette chose qu'il a demandé qu'elle soit gravée sur son tombeau. Je cherche l'or du temps. Et je trouve ça très joli.
Mais Breton, vous lui en voulez un petit peu aussi, parce qu'il n'a jamais voulu reconnaître...
Non, c'est pas Breton, c'est Aragon.
C'est Aragon, pardonnez-moi. Ouais. Aragon, Vous devez avoir un peu d'antipathie pour lui.
J'ai pas d'antipathie, j'ai du regret. Parce que c'est un grand poète, un grand écrivain. Et disait-moi que j'étais une emmerdeuse. J'aurais bien aimé le rencontrer. On a correspondu un moment, parce que je lui ai demandé l'autorisation de publier Le Paysan de Paris. Il m'a répondu en me disant que ça appartenait à Gallimard. Par contre, en ce qui concerne Le Comte d'Irène, il ne m'a jamais répondu, ce qui fait que je l'ai publié sans son autorisation.
Et vous avez eu des problèmes très rapidement?
Ah bah oui, la totalité du stock a été saisie, les flics ont débarqué, etc.
Alors, des interdictions, des saisies, des poursuites, des condamnations pour quoi? Alors, outrage aux bonnes mœurs?
Outrage aux bonnes mœurs par la voix du livre.
Et aujourd'hui, ça vous fait sourire, ces condamnations? Vous voyez ça encore comme... C'est une souffrance pour vous, encore, aujourd'hui?
Non, c'était pas une souffrance, c'était un agacement. J'étais complètement en colère parce que... On poursuivait des livres qui pouvaient donner envie aux gens de faire l'amour, alors qu'on laissait François afficher une avec des enfants brûlés au napalm au Vietnam par les Américains. La pornographie, elle était de ce côté-là, elle n'était pas du mien.
C'est toujours posé le problème du financement, au point même que la Banque de France, même parce que vous aviez été condamné en justice pour outrage aux bonnes mœurs, la Banque de France disait qu'il ne faut pas prêter d'argent à cette femme.
Oui, non pas seulement à cette femme, à tous les gens qui ont été dans cette situation.
Est-ce que vous avez été soutenue suffisamment ? Non.
Non, non, non. La profession, enfin, c'est la presse qui était quand même la première concernée, puisqu'il s'agissait de la liberté d'expression, ne m'a pas soutenue. Il a fallu que je sois menacée de prison pour qu'un académicien chrétien, ancien résistant, Pierre-Emmanuel...
Pierre-Emmanuel, dans le Figaro de surcroît,
qui lance une pétition, avec des centaines de gens qui signent de tous bords, d'ailleurs. Et ce n'est pas relayé par la presse de gauche.
Vous avez même, par la mairie, je ne sais plus de quel arrondissement, là où vous habitez, vous avez été radié des listes électorales.
Ah oui, 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 je suis radié, privé de mes droits civiques, comme on dit.
Bon, c'est le président Pompidou qui vous a listé par la suite. Oui. Ceci dit, Régine Deforge, quand même, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas une provocatrice. Vous avez posé nu pour des magazines et vous dites que vous aviez posé nu aussi pour utiliser vos propres photos, votre corps. Pour illustrer les livres érotiques que vous faisiez paraître et également pour des cartes postales ou cartes de vœux.
Ah non, non, non. Cartes de vœux, oui, oui, oui.
Mais vous êtes une provocatrice, non ?
Si vous voulez, mais si vous voulez, on devient un provocateur à partir du moment où on vous interdit des tas de choses. Moi, ça a été le cas, si vous voulez. Le scandale est venu du fait qu'on interdise un livre dans la France de l'après-guerre d'Algérie, etc. Et ça, moi, je n'ai pas compris.
Vous avez un parcours exceptionnel d'éditrice, d'écrivain. Vous avez rencontré presque le tout Paris littéraire. Le couturier Louis Ferraud, je ne vais pas tous les mentionner. Alors Pierre Molinier, alors qui était un obsédé sexuel, parlez. Vous nous parlez un peu de Pierre Molinier ?
C'était un très très drôle de type. Il vivait...
Donc un artiste ?
Un artiste, il vivait à Bordeaux, dans le vieux Bordeaux, dans un immeuble du XVIIe siècle, dans un appartement où pour entrer dedans, il fallait passer à travers un mur d'écueville, c'est-à-dire d'ordures, pour arriver dans la pièce où il vivait, où il peignait, où il mangeait, etc. etc. Et c'était, tout ça était d'une grande saleté, mais c'est vrai que c'était un type... assez exceptionnel.
Il faut dire aussi qu'il mettait du sperme dans ses peintures.
Ah oui, enfin. Oui, une sorte de glacis, je ne sais pas comment ça s'appelle, le vernis.
Alors Sonia Riquiel, c'est votre grande copine. D'ailleurs, il y a une photographie où vous êtes dans un cimetière mérovingien.
Oui, oui.
On dirait deux sœurs.
À côté de mon mariage, c'est vrai, c'est vrai.
C'est très amusant cette photo. Oui. Alors, parce qu'il y a un petit cahier de photographie au centre de vos mémoires, hein, l'enfant du 15 août. On vous voit aussi dans la propriété de Malaga, la propriété de François Mauriac. Et puis alors, vous avez rencontré un grand nombre d'hommes. Vous êtes une dévoreuse d'hommes.
Oh, pas, je trouve que j'en ai pas eu assez, moi.
François Mitterrand. Alors, François Mitterrand est un gros dragueur.
Ah bon, c'est un dragueur, ben, c'est sûr, je le confirme.
Vous voulez nous parler un petit peu de l'ancien président de la République ? Vous l'avez connu, bien sûr, quand il était premier secrétaire du Parti Socialiste. Figure intellectuelle, Mitterrand, c'est un littéraire, c'est une plume, même s'il vous a déçu pour la préface des Mystères du Peuple.
Ben, je l'ai rencontré, justement, à l'occasion de la publication des Mystères du Peuple de Gensu, qui était un ouvrage proclamant l'insurrection, que la liberté ne se donne pas, elle se prend, et elle se prend par l'insurrection, le peuple, etc. Et c'était au moment où la gauche avait volé en éclats. Alors moi, toute seule, je me suis dit, tiens, je vais refaire l'union de la gauche avec ce livre. Et donc j'ai été voir François-Louis Mitterrand, je lui en ai parlé, enfin, il m'a dit toute son admiration, il était charmant. Il m'a beaucoup parlé de la Bible lors de ce premier entretien. Et puis, nous nous sommes revus. Je lui ai laissé les livres. Entre-temps, il les a perdus. Je lui ai retrouvé une autre édition, ce qui était difficile à l'époque, parce que c'était assez, assez rare. Et puis, bon, nous avons commencé à avoir des relations. Il m'invitait à déjeuner, à dîner, plutôt à dîner. On faisait les bouquinistes ensemble. On allait dans les galeries de peinture. Mais c'était un homme très agréable, qui s'intéressait beaucoup à l'écrivain. Puis, à l'Élysée, au déjeuner où j'étais conviée, il recevait beaucoup d'écrivains.
Ah, vous parlez de ces scènes avec Frédéric Dard.
Ah oui, c'était touchant. Parce que Frédéric Dard était amoureux de François Mitterrand. Il a été, il avait la langue pendante en le regardant, ce que les autres convives contemplaient avec mépris et ironie. Non, il adorait François Mitterrand. Il avait écrit d'ailleurs un livre autour de lui. Et c'était quelque chose de très touchant que de voir cet homme aimer tellement... le président de la République.
En mai 81, bien évidemment, François Mitterrand devient président de la République, un président socialiste. Vous étiez folle de joie.
Ah oui.
Parce que vous aviez fait partie de son comité.
Tout à fait, on était fous de joie, on était à la Bastille, toute une bande de copains et de copines. On était très contents.
De François Mitterrand, vous n'en dites pas plus ?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise de plus ? Il ne s'est rien passé entre nous, moi je le trouvais trop vieux, alors ça ne m'intéressait pas du tout.
Alors vous avez rencontré, pareil, dans les personnalités, Gaston Defferre.
Ah, j'aimais beaucoup Gaston, c'était un homme à femme, il aimait les femmes. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est parce qu'il m'avait déshabillé sur les marches du Palais des Expositions de Nice.
Et vous avez déshabillé ?
Du regard.
Ah, bon. Bon. Joseph Kessel ?
Oui, enfin, je n'ai fait que l'apercevoir. Mais c'est vrai que c'est un personnage haut en couleur.
Helmut Newton ?
Oui,
le photographe.
Oui, pas sympathique.
Pierre Combesco, qui est devenu qui a été pris Goncourt, je ne sais plus, dans les années 80, je crois.
Oui.
Alors Pierre Combesco, quand on le voit en photographie, on a du mal à penser que ça peut être quelqu'un d'extrêmement drôle. Alors vous dites que c'est un clown.
Ah, c'est un clown. Il ouvre dans Gisèle dans la rue, il se met en tutu dans une voiture. Et ça. Non, c'est un garçon très, 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 très amusant.
Vous avez été donc représentante en librairie pour Jean-Jacques Pauvert. Vous faisiez donc des tournées en province.
Oui, non, mais je n'étais pas représentante, je ne vendais rien. J'apportais la bonne parole. Je racontais au libraire ce que Jean-Jacques Pauvert voulait publier.
Alors Jean-Jacques Pauvert va devenir votre amant. Et puis alors, au cours justement d'une de ces tournées en province, Régine Deforges, vous entrez dans le petit musée de Colmar, et là vous commettez, mon Dieu, un vol de tableaux.
Oui, mais il y avait deux tableaux ravissants, c'est des peintures sur bois de la Renaissance, représentant une des Vierges folles. J'en ai décroché un, il n'était pas très grand, il était grand comme ça. J'avais sous ma cape et je suis sortie, il y avait de la neige dehors. Puis au milieu de la plage, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es complètement folle. Je suis retournée le raccrocher. Voilà.
Ça, je trouve, dans vos mémoires, c'est exceptionnel d'avoir fait ça. C'est très dangereux. Là, on a l'impression que vous êtes toujours ce qu'on appelle, j'aime pas utiliser ces mots anglais, vous êtes toujours un peu borderline. On a l'impression que vous cherchez à voir jusqu'où vous pouvez aller.
Ah oui, c'est assez vrai. C'est assez vrai.
Une sorte d'inconscience et de goût du risque, peut-être. Se faire peur, vous aimez bien vous faire peur.
Oui, j'aime assez me faire peur.
Si vous venez de nous rejoindre sur la fréquence de Radion ou si vous nous suivez via Internet sur le www.radion.fr en Bourgogne ou aux quatre coins de France, eh bien sachez que vous écoutez Wagon Livre, comme chaque mercredi, Régine Deforges, depuis novembre 2010, voyez-vous. C'est une des rares, presque la seule heure littéraire hebdomadaire sur les ondes en Bourgogne. Et Régine Deforges est donc notre invitée sulfureuse, mais si charmante. Elle s'est vue décerner par la Commune libre de Montmartre le prix Chevalier de la Barre pour son combat contre la censure. Régine Deforges est donc en notre compagnie ce soir. On marque une petite pause musicale. On écoute Lio. C'était en 1979 avec son fameux titre Banana Split.
Je l'abominable enfant qui n'est qu'un amour de désir.
Nous sommes ce soir avec Régine Deforge pour L'Enfant du 15 août, ses mémoires qui paraissent aux éditions Robert Laffont. Régine Deforge, en 1981, paraît La bicyclette bleue. Immense succès. À ce jour, toutes traductions confondues, je crois que le roman a été vendu à 10 millions d'exemplaires. Alors là, on peut dire qu'avec cette série de romans, vous commencez à avoir de l'argent parce que finalement, vous n'en avez jamais beaucoup eu quand on vous lit. On croit toujours les écrivains médiatisés, célèbres, très riches. Vous avez toujours vécu, même si vous faisiez des folies, vous n'aviez pas d'argent, mais vous alliez par exemple manger du caviar. Ça aussi, c'est quelque chose d'amusant.
Oui, mon dernier billet de 100 francs, je le dépensais en caviar. À l'époque, on pouvait avoir suffisamment de caviar pour 100 francs.
Alors, l'héroïne de la bicyclette bleue se prénomme Léa. Et Léa, déjà dans un premier temps, s'est inspirée d'un roman de Colette.
Oui, c'est-à-dire j'ai donné ce prénom à ma dernière fille, en souvenir de l'héroïne de Chérie, le roman de Colette.
Alors ensuite, il y a toute la saga, toutes les aventures qui vont malheureusement... Alors c'est un peu plus tard, c'est en 88, que les héritiers de Margaret Mitchell se réveillent et déposent plainte pour plagiat. Alors là, vous vous dites, mon Dieu, tout m'accable, mais qu'ai-je fait au bon Dieu ?
Non, je ne me dis pas ça. Je savais que malgré tout, il y avait un risque. Mon mari m'avait mis en garde contre ça. L'éditeur disait qu'il n'y en avait pas, mais il y avait des... Mais si vous voulez, étant donné que la chose avait été faite tellement ouvertement, dite et redite, ils ont perdu aux États-Unis et ils ont perdu en France.
Régine Deforge, le livre du point de croix. C'est un livre qui va paraître en coédition aux éditions Albin Michel et Régine Deforge. Alors, vous dites que ce livre a connu un véritable succès. Ça peut surprendre, d'ailleurs, d'une part. D'autre part, vous écrivez dans vos mémoires que c'est un livre qui a sauvé la mercerie française et les fabricants de fils à broder. Êtes-vous bien sérieuse en disant cela ?
Je suis tout à fait sérieuse. Les femmes ne brodaient plus parce qu'on leur disait que c'était ringard et trucs comme ça. Le nombre de petits morceaux brodés, de merci brodés que nous avons reçus, Geneviève Dorman et moi, c'est avec Geneviève Dorman que j'ai fait ce livre, le montre bien. Les associations qui se sont créées autour de Pointe-Croix, je suis présidente de je ne sais combien d'associations, ça démontrait à quel point les femmes avaient été frustrées pendant des années de ne plus pouvoir tirer l'aiguille. Donc elles se sont rattrapées.
Donc le livre du Pointe-Croix qu'on trouve toujours, quelque chose disponible.
Toujours.
Alors, on a parlé du succès rapidement de la bicyclette bleue. La propriété de François Mauriac à Malaga. Alors pourquoi vous vous rapprochez de cette famille Mauriac ?
J'ai épousé Pierre Wiazemski, qui était un des petits-fils de François Mauriac.
Et donc vous aviez la chance d'approcher indirectement un grand qui peut-être n'aurait été choqué par votre...
Il aurait sûrement été choqué, mais j'ai l'impression que ma présence à Malaga l'amusait. Son fantôme m'a été extrêmement favorable. Je travaillais dans son bureau, ce qui semblait un crime de lèse-majesté à la famille. Ce qui n'était pas le cas, puisqu'il ne travaillait jamais dans son bureau. Il écrivait sur une planchette de bois sur ses genoux. Alors, donc... Non, c'était... C'est cette maison qui m'a porté bonheur. C'était une maison tout à fait remarquable. Enfin, très simple, rien d'absolument luxueux, ni de particulier, mais un charme fou.
Vous avez été membre du jury du prix Femina. C'est Geneviève Dorman qui vous dit, mais va pas chez ces vieilles peaux.
Tu vas prendre un coup de vieux.
Ah, oui. Et alors, vous n'avez pas pris le coup de vieux
sais rien, j'y suis allée, mais bon, très vite, je sentais bien, elle ne m'aimait pas, pour quelle raison, j'en sais rien. Et puis moi, je ne les aimais pas beaucoup non plus. Quand j'ai été reçue, je leur ai offert des plants à chacune des plantes carnivores.
Oui. Ça mettait de l'ambiance.
N'est-ce pas ?
Cuba est votre deuxième patrie. Mm-hmm. Voilà une île que vous adorez. Alors, j'ai été très touché parce que j'ai appris que vous étiez avec Gérard Oberlé, que nous avions reçu micro. On l'avait rencontré à Nevers. Vous savez qu'il a un manoir dans le Morvan.
Je sais.
Et il est bibliophile comme vous. Il passe ses journées au lit à lire. Mm. Et j'ai appris qu'il était à vos côtés à Cuba quand il apprend la mort de son père ou de sa mère.
Son père. Nous étions à Santiago de Cuba et impossible de revenir pour l'enterrement. Fallait rentrer à la date prévue. Donc nous sommes rentrés à La Havane. Et à La Havane, ben, je l'ai emmené dans un endroit où nous allions prendre des verres, des mojitos, qui s'appelait la Casa del Tango. Et là, j'ai dit à la femme qui s'en occupait, qui était Angèle, je lui ai dit, écoute, Gérard vient de perdre son papa, il est très malheureux, etc. Alors, elle est montée sur la petite scène et elle a dit, je vais chanter pour un camarade qui est dans le chagrin, etc. Elle dit, je vais chanter un tango super. Gérard pleurait, je pleurais, l'assistance pleurait. Les Cubains sont venus après le serrer dans leurs bras. Bon, c'est des gens merveilleux.
Et de vous retourner à Cuba?
Ah oui, 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 j'y suis retournée souvent. J'y suis même retournée l'année dernière, mais ça, je regrette. En fait, Cuba, j'y suis bien quand j'y suis seule ou avec des amis. Mais je suis allée avec mon mari qui, lui, est très anticastriste, donc ça m'énerve.
Ah bon? Vous avez beaucoup voyagé. Vous vous êtes également rendu en Argentine sur la trace d'anciens nazis. Alors là, la papesse de l'érotisme, je vous agace en disant ça, mais je fais exprès. La papesse de l'érotisme sur les traces des nazis en fuite en Argentine. C'est formidable, cela.
Non, dangereux aussi, d'ailleurs. Très dangereux. Ça a donné un livre qui s'appelle « Noir Tango ». C'était donc la traque des criminels de guerre nazis. Par des vengeurs juifs. C'est ce que je pensais, je ne savais pas quand j'ai commencé la bicyclette, c'est qu'il y avait eu de la résistance de la part des juifs. Je pensais qu'ils s'étaient laissés conduire à l'abattoir, mais pas du tout. Donc il y a eu des mouvements de juifs qui se sont fait engager dans les différentes Waffen-SS, dans différents pays, et ont tué à l'intérieur des officiers nazis. Et dont un que j'ai connu, on appelait Monsieur Jean. Eh bien, Monsieur Jean s'était fait engager dans la Waffen-SS en Hongrie. Ensuite, après la guerre, il est parti dans un kibbutz. Il est revenu. Et pendant 20 ans de sa vie, il a été garçon de café chez Lippe.
Vous avez aussi rencontré Henri Fenet.
Oui.
Qui était le commandant de la division SS Norland, c'est-à-dire la division d'Asreich. Mm-hmm. La division
Charlemagne.
Charlemagne, pardon. Tous vos romans, qui nous ramènent à des périodes historiques bien précises, sont extrêmement documentés.
Ah bah oui, c'est la moindre des choses. Je trouve que quand on parle de faits réels, de personnes ayant existé, il faut être irréprochable sur ce qu'on raconte sur elles.
J'aimerais que vous nous parliez un petit peu d'Hervé Guibert. On a sans doute un peu oublié Hervé Guibert, ça fait quand même maintenant plus de 30 ans.
Oh non, tant que ça. Oh, j'ai aucune notion.
Je dis peut-être des bêtises. Ouais. En tout cas, je m'en excuse auprès de nos auditeurs, je leur demande de vérifier. Vous avez publié le premier livre d'Hervé Guibert.
Tout à fait.
Qui avait pour titre La mort propagande. Mmh. Un livre choquant.
Très choquant.
Violent, choquant.
Très choquant, très
l'apologie
violent.
De la merde, du sang.
C'est ça, ouais. Non, c'était un livre, ce qui était très étonnant, c'est qu'il avait été écrit par un garçon de 17 ans qui avait l'air d'un ange. Physique très beau, blond, des yeux bleus candides. Non, c'est un livre redoutable. Et quand j'ai revu Hervé après l'avoir lu, je lui ai dit que ce que j'en pensais, il m'a dit, vous n'allez pas le publier. Ben, j'ai dit, si, parce que si moi je ne le publie pas, personne ne le publiera, ce qui était vrai à l'époque. Donc je l'ai publié, ce qui fait que, comment il s'appelle, Michel Foucault, Roland Barthes et tout ça se sont précipités sur lui, comme la vérole sur Clergé. Ils ont entretenu avec lui des relations pas sympathiques.
On se retrouve dans une poignée de minutes, on écoute Étienne Dao, « Weekend à Rome ».
Chanson pour rire, chanson étale. la pluie m'assomme, gris m'empoisonne, week-end à Rome. Pour la douceur de vivre et pour le fun, puisqu'on est jeune, week-end létal. Retrouver le sourire, je préfère te dire, j'ai failli perdre mon sang-froid. J'ai failli perdre mon sang-froid.
Le début de notre émission, retrouvez-la en podcast sur le site internet de Radion. D'un clic, c'est facile, efficace et pratique, et c'est sur le www.radion.fr, rubrique émission, puis wagon livre, et vous sélectionnez l'onglet podcast. Et nous continuons notre belle soirée avec notre invitée Régine Deforge. Régine Deforge, je vous invite s'il vous plaît à nous lire le dernier paragraphe de vos mémoires, dont je rappelle le titre, hein, L'enfant du 15 août, disponible aux éditions Robert Laffont.
Comment, malgré mon désarroi, ne pas dire merci à la vie qui m'a tant gâtée, m'a permis d'échapper à cette petite ville de province qui me semblait une prison pour m'ouvrir les portes de Paris dont je rêvais, où je suis devenu libraire, éditeur, puis écrivain, où des hommes et des femmes m'ont tendu la main, où j'ai rencontré l'homme que j'aime, où mes enfants sont nés. Paris qui s'est offert à moi et moi à lui dans une harmonie totale, irréelle et magique. Je compte sur cette ville pour me sortir de ce marasme qui me paralyse depuis des mois et sur le printemps qui tarde à venir. Les amours anciennes reviennent en mémoire avec leurs caresses, leurs baisers, ce désir qui nous inonde. Il semble que c'était hier. Que soient bénis nos amants, ceux d'une nuit, ceux d'un mois, ceux de toujours, ceux qui ont su nous transporter hors de nous-mêmes, nous faire atteindre ce plaisir sans égal qui donne envie de dire merci. Oui, merci de ce cadeau inouï, la vie.
Merci Régine Deforge pour cet extrait de vos mémoires. Quel avenir pour le livre, vous qui avez été éditrice, écrivain, comment vous voyez l'avenir? Alors on a parlé des difficultés que rencontreront les libraires qui vont se battre contre les grands groupes favorisés même par les impôts. Comment vous voyez l'avenir du livre? Parce que vous avez, à un moment, vous faites le constat qu'en librairie, il y a beaucoup trop de livres, et notamment des livres de gens qui ne sont pas écrivains, c'est-à-dire des gens qui sont des célébrités de la télévision et qui écrivent leurs livres. Et ça vous exaspère. Et ça continue.
Oui, ça continue, mais ça a toujours été comme ça. Avant la guerre de 14, il y avait des écrivains qui se plaignaient justement des livres non écrits par des acteurs, des actrices, etc. L'avenir du livre, vous savez, tant qu'il y aura des gens qui liront, et à mon avis, il y en aura toujours, le livre ne craint rien. il va connaître d'autres formes. Regardez, à l'arrivée de l'imprimerie, il a mis au chômage tous les copistes. Hein? Ben oui. Et l'imprimerie, c'est quand même quelque chose de génial. Donc maintenant, il y a d'autres supports pour lire. Il n'y a pas seulement le livre papier. Il y a d'autres supports. Donc je crois qu'il faut les accueillir sans méfiance. Il faut les accueillir en sachant très bien ce qu'on va en faire. Et évidemment, emporter dans une tablette une vingtaine de livres, c'est mieux que d'avoir les 20 bouquins dans sa valise. Donc je pense, je pense que ça perdurera.
Dans vos mémoires, vous citez Pierre Guyotat.
Oui.
Je répète cette citation. La littérature est une aventure, pas une carrière. Vous n'avez pas fait carrière en littérature? Ça a été vraiment une aventure? En tout cas, en tant qu'éditrice, c'est une aventure. Presque même aussi des mésaventures.
Oui, mais en tant qu'éditeur et en tant qu'écrivain, ça a été une aventure. On peut presque dire que j'ai fait carrière, puisque je continue depuis des années à publier des livres, etc., qui rencontrent plus ou moins de succès. Mais non, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance.
Vous parlez de la vieillesse. À la fin de vos mémoires, vous écrivez « La vieillesse s'accroche à mon corps, salit mon visage, tache mes mains. Elle ricane quand je dis demain. Pour elle, demain, c'est la mort qui lui ravit sa proie sur laquelle elle pose un ultime baiser. La vieillesse prend son temps. Elle jouit de voir se dégrader son butin, de le regarder se débattre dans ses raies. Elle ricane de son impuissance et de ses larmes. La mort n'a que mépris. Devant les manigances de la vieillesse, elle trouve qu'elle se donne bien du mal pour attraper ses charognes. Vieillir, c'est...
un naufrage, je disais De Gaulle.
Oui. Ça vous déplaît de vieillir, mais personne n'a envie de vieillir.
Oui, bah d'accord, mais les autres, je m'en fous. Hein. Ça m'embête beaucoup.
Qu'est-ce qui vous révolte le plus quand vous promenez à Paris ou quand vous écoutez les informations, quand vous regardez la télévision? Qu'est-ce qui vous scandalise aujourd'hui le plus?
Il y a tellement de sujets de scandale. Je ne sais pas, c'est la mollesse.
La mollesse?
La mollesse de ce gouvernement, la mollesse des dirigeants, la mollesse, on vit une époque molle.
Vous préféreriez un peu plus quoi? D'énergie?
Ah bah
un
oui.
Peu plus d'autorité peut-être même?
Autorité, j'en sais rien. Si l'autorité est bien placée, pourquoi pas? Mais de l'énergie, oui, de l'appétit, du goût de vivre. L'impression qu'ils vivent à contre-cœur tous.
Vous êtes toujours femme de gauche?
Oui, toujours. J'ai du mérite. Hein.
Socialiste, communiste ou front de gauche?
J'ai jamais été communiste, vous avez dit tout à l'heure communiste. Non, j'ai été sympathisante. Et ce, à la suite d'un film que j'ai vu quand j'avais 9 ans, qui s'appelait Arc-en-Ciel, qui était l'histoire d'un groupe de partisans en Ukraine. Et ça, c'est un film qui m'a bouleversé, qui m'a rendu les Russes et les communistes sympathiques.
Donc toujours de gauche?
Toujours de gauche, oui.
Vous dites ça avec le sourire?
Je ne veux pas pleurer.
Je trouve formidable que vous ayez accepté de venir à Saulieu, en invité d'honneur du Salon du Livre de Saulieu. Vous connaissiez Saulieu? Vous connaissiez un peu la Bourgogne?
Oh, je connaissais un peu.
Dijon, surtout.
Je connais Dijon, mais je ne connaissais pas vraiment. Non, j'aime beaucoup les salons du livre de petite taille dans des endroits à peu d'habitants. Je trouve qu'il faut encourager tout ce que je peux faire pour aider le livre, je le fais volontiers.
Ah ça, on vous croit, on est certain que vous faites tout ce que vous pouvez, vous l'avez déjà fait et vous continuez à le faire. Je vous remercie, Régine Defort. J'aimerais qu'on se quitte sur une petite citation de François Mauriac, qui écrivait « Je possède ce bonheur qu'une lecture m'aide encore à vivre ». Vous en êtes d'accord?
Je signe. Oui, je suis d'accord.
Merci Régine Deforge de nous avoir accordé cet entretien ici à l'hôtellerie de la Tour d'Aussoye à Saulieu. Et je remercie d'ailleurs la direction qui nous a accueillis très gentiment. Je rappelle le titre de vos mémoires, paru donc chez Robert Laffont, un livre de souvenirs où l'on découvre une Régine Deforge sous toutes ses facettes. Hein. C'est l'enfant du 15 août. Qui nous permet donc de découvrir votre vie, des pages formidables sur votre rencontre avec le général Giap, par exemple, qui a été le vainqueur des armées françaises et américaines en Indochine, mais défile tout le monde de l'édition. Il y a quelques coups de griffe quand même aussi que vous donnez. C'est, j'ai beaucoup aimé effectivement le départ en Argentine, la recherche des nazis en fuite, enfin des aspects de votre vie que je ne connaissais pas. Merci Régine Deforge d'avoir été devant notre micro.
Merci à vous. Thank you.